Donc moi, je m'appelle Cécile Avalone et ma voisine de gauche, c'est Nolwenn Bourik. Nous représentons le département du Val d'Oise. Je remercie vivement la BPI et la BF de nous avoir invités à cette journée. Merci à vous tous d'être présents. Alors c'est très impressionnant hein, de parler devant une salle pleine à craquer. Et en même temps, c'est très réjouissant de voir que ce thème du lien social, la bibliothèque outil du lien social, attire encore, en 2017, beaucoup de gens. Je me souviens encore en 2009, quand il y avait des initiatives à droite, à gauche, il y avait cette préoccupation forte de « mais au fait, la bibliothèque, elle a peut-être un rôle à jouer dans ce vivre ensemble, dans ce qui se tisse entre les gens ». Et à l'époque, enfin c'est comme ça que je le vois, il y avait des défricheurs. On était plusieurs, vous étiez plusieurs, à parcourir la France, la campagne, la Belgique, la Hollande, pour trouver des endroits qui travaillent ça, qui sont dans cette mécanique locale, à partir d'une volonté politique affirmée, de faire de la bibliothèque un outil pour quelque chose qui pourrait avoir à voir avec le lien social. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on avait découvert un drôle de lieu qui s'appelait Signy-l'Abbaye, une médiathèque assez hors norme, où ça se passait, où on a pu le voir. Et puis il y a eu des films, et puis il y a eu plein de choses. Et là encore, je tiens à souligner le rôle assez pionnier, fédérateur de la BPI, qui non seulement a permis de travailler cette thématique, de l'essaimer, de la faire infuser là où c'était possible, et puis de rendre hommage et de reconnaître toutes les initiatives, vous avez employé ce mot tout à l'heure, toutes les expérimentations, petites, moyennes, grandes, durable, pas durable, qui se passe, voilà. Donc un grand merci à la BPI, grâce à elle, voilà, on est tous ici grâce à elle. Alors moi je vais essayer de vous parler d'une étude d'impact que nous avons menée dans le département du Val d'Oise. Aujourd'hui je vais vous en présenter avec la personne qui a été le pilote de cette étude, Madame Bourik, le volet social, puisque cette étude a en effet essayé d'explorer d'autres thématiques. Alors, oui, ça marche. Donc, pourquoi mener une étude d'impact ? C'était une volonté de notre collectivité, le département du Val d'Oise, depuis plusieurs années, de mener des études pour en faire des outils d'aide à la décision pour les élus locaux. Notre propos n'est pas du tout de faire des études nationales, de donner des leçons à qui que ce soit ou d'avoir des choses exemplaires. Notre propos était d'essayer localement, voir si ça marche et voir si nous, au niveau du Val d'Oise, on pouvait créer une dynamique de réflexion et créer peut-être des outils qui permettent aux bibliothécaires locaux de nouer un dialogue avec leurs élus pour montrer la bibliothèque sous un autre jour, sous un autre angle, sous d'autres angles. Et ça tombait bien aussi parce que c'était une préoccupation forte dans un contexte budgétaire fortement chahuté. Les budgets de la culture, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, sont remis en question, comme les autres budgets des services publics, et on peut légitimement, non pas aller vers un élu pour dire « touchez pas à la culture parce que c'est la culture », mais au contraire essayer de comprendre cette contrainte et de la faire sienne, de l'accepter, et de voir comment faire avec. Le deuxième élément de contexte, c'était celui, en dehors de la France, d'enquêtes, celle des Espagnols, Fessabide, des enquêtes également en Europe du Nord, qui commençaient déjà à travailler cette question. L'utilité des services publics, la bibliothèque a-t-elle des impacts réels sur le territoire, sur la population ? Et puis, autre élément de contexte, c'est la BPI, le ministère, l'ABF nous ont aussi sollicité pour nous demander si nous, Val-d'Oise, nous pourrions être un petit peu un territoire cobaye, un territoire expérimentateur sur un échelon donné pour essayer de mettre en place une méthodologie dans la question de la mesure d'impact. C'était encore plus intéressant pour nous de travailler sur la mesure d'impact puisque quelques années auparavant, nous avions fait une enquête sur les facteurs de réussite des bibliothèques. Nous étions demandé qu'est-ce qui fait qu'une bibliothèque marche, entre guillemets, ou ne marche pas. Et donc, nous avions aussi brassé une certaine quantité de données, nous avions fait appel à des sociologues en dehors de la bibliothèque départementale, et nous avions pu, en effet, identifier voilà, ce qui peut être la mesure de la réussite d'une bibliothèque, c'est la fréquentation, c'est les gens qui entrent. Et nous avions essayé de voir quels pouvaient être les facteurs déterminants qui permettent de faire bouger ce curseur fréquentation. Tout ça pour vous dire que voilà, c'était des questions qui nous travaillaient déjà depuis un certain nombre d'années. Et quand la BPI, l'ABF, le ministère voilà, nous ont dit « Est-ce que vous pourriez essayer, vous, de faire une étude d'impact ?» On s'est dit bah, « Pourquoi pas ?» On a déjà un petit peu essayé quelques années auparavant. Alors, une fois que tout le monde s'est mis d'accord sur ce côté expérimentation locale sur le territoire du Val d'Oise, on a mis en place une méthodologie que je vais vous montrer rapidement. Alors, attends, il ne faudrait pas aller trop vite. Voilà. Donc, le Val d'Oise, c'est un peu plus d'un million d'habitants, c'est à peu près 129 bibliothèques, 130, parce qu'il y en a qui naissent, il y en a qui meurent, voilà, ce sont des organismes vivants, ça bouge. Nous n'avions pas les moyens de faire une étude sur l'ensemble des bibliothèques du département, et donc, du coup, nous avons établi des critères qui permettaient de sélectionner un échantillon. Donc ces critères, c'est ceux que je vous affiche ici. Ils ont permis donc de mettre de côté le nombre d'habitants, le rattachement administratif, hein, tout ça pour avoir un échantillon représentatif des bibliothèques publiques du Val d'Oise. L'IDH, c'est bien entendu l'indice de développement humain. À partir de ces critères, nous avons établi un échantillon de 13 bibliothèques. Ça représente 10% des établissements valdoisiens. Nos amis sociologues nous ont dit, voilà, 10%, c'est bien. Ça permet d'avoir quelque chose de représentatif. Une fois qu'on a sélectionné cet échantillon, je vais vous le montrer sur une carte. Donc voilà le département du Val d'Oise. Et les communes qui sont assurées, ce sont les communes qui ont été sélectionnées à partir des 5 critères que je vous ai montrés et qui a permis d'établir cet échantillon. Donc, on a des bibliothèques très variées. On a des bibliothèques petites, gérées par des bénévoles. On a des bibliothèques plus importantes, intercommunales, et dans des communes de taille différente. Donc, c'est avec ces collectivités que nous avons travaillé plus précisément. Nous nous sommes inspirés de sources dont j'ai déjà parlé un petit peu. Pardon, je reviens. Je ne sais pas si c'est très lisible. Si, c'est plus lisible sur le grand écran que sur celui que je vois ici. Donc, les sources, évidemment, ce sont les données du service livre à la lecture du ministère de la Culture. Et puis, ce sont des données, des sources qu'on a fabriquées nous-mêmes. Donc, à partir notamment, d'une part, d'un questionnaire qui a été envoyé aux 13 bibliothèques de l'échantillon, d'autre part, d'entretiens avec les bibliothécaires de l'échantillon, Et puis, tout en bas de votre diapositive ici, un questionnaire en direction des usagers, les usagers des bibliothèques de l'échantillon. Alors, on avait également prévu de faire des entretiens avec les élus, et malheureusement, voilà, on n'a pas eu beaucoup de réponses. Les délais impartis étaient peut-être trop courts. Voilà, on n'a eu que 2 entretiens qui ont pu se dérouler lors de cette étude avec des élus. Par contre, du côté usager, ça a plutôt mieux marché que ce qu'on imaginait. Et donc, il y a eu, non pas des usagers sélectionnés et qui permettraient d'avoir un panel représentatif de quoi que ce soit, mais des usagers qui ont pris le temps de répondre à un questionnaire dans les 13 bibliothèques de l'échantillon. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici au niveau de la méthodologie, c'est que autant les 13 bibliothèques ont été sélectionnées à partir de critères afin d'avoir quelque chose de représentatif du Val d'Oise, des bibliothèques du Val d'Oise, autant ce qui sort des entretiens avec les usagers n'est pas représentatif du tout. C'est juste ce qu'on dit des usagers donnés dans des bibliothèques données. Voilà. Donc, d'un côté, c'est représentatif, ce qu'on dit les bibliothèques. De l'autre, les usagers, ça reflète juste ce qu'on dit les bibliothèques, ce qu'on dit les usagers. Vous voyez, je fais des lapsus. Déjà que c'est pas simple à expliquer. Voilà. En même temps, ce que disent les usagers, c'est relativement intéressant. Donc, ça vaut la peine de s'y intéresser. Alors, une fois qu'on a travaillé ces données et bien compris ce qu'elles disent, je vais vous présenter rapidement ici ce que nous avons rassemblé sous l'appellation sociale. Et donc, nous nous sommes permis de ramener ici des données qui touchent à la politique de l'emploi. L'étude que nous avons menée, elle avait 4 volets. Elle se posait la question de savoir si les bibliothèques publiques du Val d'Oise avaient un impact dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine éducatif et dans le domaine social. Aujourd'hui, j'ai pioché avec ma collègue, voilà, ce qui est ressorti de ces 4 thématiques et que l'on peut partager ici dans cette réflexion autour de la bibliothèque levier, la bibliothèque outil d'une dimension, d'une dynamique sociale. C'est pour ça que là, je vais vous présenter ce qui touche à la politique de l'emploi et ensuite ce qui touche plus précisément au lien social. Au niveau de la politique de l'emploi, on a pu observer que les bibliothèques de l'échantillon, les 13 bibliothèques, employaient des personnes. C'est une lapadissade, oui, mais on l'a quand même compté. Ils emploient 117 personnes, dont 43 bénévoles. On a pu observer que sur ces personnes, 56% étaient fonctionnaires et 33% bénévoles. On a pu également observer que 5% des personnes employées par les bibliothèques de l'échantillon l'étaient avec des contrats à durée déterminée. Enfin, en interrogeant les niveaux scolaires des personnes employées, on a pu constater que 38 personnes du personnel avaient un niveau Bac plus 2, plus 3. Plus intéressant peut-être, c'est de montrer, et ça vous pouvez l'utiliser si ça vous semble pertinent, dans vos argumentaires, vous savez, vis-à-vis des élus, dans toute cette réflexion pour dire, ben oui, la bibliothèque, c'est peut-être bien un acteur économique du territoire. On a pu voir, en effet, que la bibliothèque génère de l'emploi, et c'est plutôt de l'emploi local. Pour ce qui concerne le Val d'Oise, 91% donc des personnes qui travaillent dans une des bibliothèques de l'échantillon résident dans le département. Donc ça, je peux vous faire part du fait que c'est quelque chose qui parle à des élus. Quand on l'a présenté, nous, à nos élus départementaux, on a constaté que c'était quelque chose qui retenait leur attention et qui pouvait jouer dans une discussion. Voilà. Et ça permettait en tout cas, pour un certain nombre d'élus ou même de directeurs généraux, de changer leur image de la bibliothèque. Oui, la bibliothèque est parfois considérée comme un gouffre financier qui coûte, qui coûte, qui coûte, mais c'est aussi un acteur économique du territoire, d'une part parce qu'elle emploie des gens, et aussi d'autre part, ça je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais ça fait partie de l'étude, parce que les gens qui viennent à la bibliothèque, eh bien, parfois, ils font aussi des achats sur le chemin de la bibliothèque. Et donc, on a pu constater que finalement, aller à la bibliothèque s'inscrit aussi dans une démarche de territoire où on va acheter son pain, passer à la banque, voilà, et qu'il y a peut-être un lien entre les deux. La bibliothèque, facteur de lien social. Alors, oui, il me reste 5 minutes, c'est dommage. Moi, j'aime beaucoup ce vocabulaire de la mécanique. On parle de levier, on parle de facteur, on parle d'outils, on parle de dynamique. Et j'aime beaucoup voir la bibliothèque comme cette espèce de d'outil au sein d'une mécanique, et en tout cas d'un outil au service de politiques publiques. Alors, les bibliothèques sont-elles des facteurs de lien social? Moi, je vous dis oui tout de suite, mais encore fallait-il le mesurer. Donc là, ce sont les entretiens avec les usagers qui nous ont permis d'avoir un certain nombre de données. Donc les usagers interrogés, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit pour 46% d'entre eux qu'ils venaient accompagnés. Ils nous ont dit pour 21% d'entre eux avoir fait des rencontres à la bibliothèque. Et ils nous ont dit pour 50% d'entre eux que le fait de fréquenter la bibliothèque avait changé leur rapport avec leur environnement. Alors environnement, ça voulait dire les relations avec leur famille, avec leurs amis, avec leur entourage. Voilà. Les usagers nous ont aussi dit des choses, puisque le questionnaire était relativement important, sur leur qualité de vie. Est-ce que la bibliothèque a un impact sur leur qualité de vie? Donc il y a un chiffre qui est intéressant. 75% des usagers interrogés estiment que la fréquentation de la bibliothèque influe positivement sur leur état d'esprit. Voilà. Donc je rappelle, ce sont les usagers interrogés dans ces 13 bibliothèques de l'échantillon. Et voilà ce qu'ils ont dit. Donc c'est, nous, une donnée qui nous a étonnés et que je vous livre. Voilà. Faites-en ce que vous voulez, mais c'est quand même plutôt réjouissant. Les usagers, enfin, nous ont dit, pour 28% d'entre eux, que la fréquentation de la bibliothèque avait un impact sur la manière dont ils géraient leur santé. Alors, j'accélère un petit peu pour ne pas vous mettre plus en retard. Et je voudrais vous montrer juste une petite vidéo très courte que nous avons réalisée pour essayer de parler un petit peu de cette étude et de rendre hommage, voilà, au travail que toutes les bibliothèques, lieux d'accès aux livres, comme on les appelle, voilà, font en tant qu'outil, levier d'une dynamique sociale. Alors, ça devrait marcher, en tout cas, je l'espère.
Imaginez un espace qui nous rapproche les uns les autres, un espace qui nous incite à communiquer, non pas parce que nous nous ressemblons, mais parce que nous sommes tous différents. L'échange est au centre de notre interface sociale. Ainsi, nous avons voulu vous regrouper, quels que soient vos horizons, autour de différentes thématiques, pour que vous puissiez partager en temps réel vos dernières trouvailles. Et ce sont de véritables professionnels, autant que des utilisateurs, qui vous guideront vers de nouvelles découvertes. Bon, encore une chose, sachez que nos solutions se regroupent en un seul et même produit, gratuit, ouvert à tous, et qui se met à jour en fonction de vos besoins. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter votre bibliothèque.
Voilà, donc je rends hommage aussi à la société SCADAR qui a réalisé ce petit film. Alors ce petit film, surtout, il n'est pas exemplaire, il ne cherche pas à l'être, il cherche juste à vous dire, allez-y, faites parler des bibliothèques. Parlez-en autour de vous et montrez que ce sont des choses qui évoluent, qui ont évolué, qui évolueront encore et qui se posent la question en permanence d'être utile aux usagers d'aujourd'hui et qui du coup cherchent à s'adapter. Et ça, je trouve que c'est tout simplement pas admirable, mais logique pour un service public. Voilà. Merci à tous pour votre attention.
Merci beaucoup pour cette présentation précise, mais qui aurait nécessité plus de temps, on l'entend bien. Ça nous laisse quelques minutes pour interagir avec la salle. Donc, je pense qu'il y a un micro qui va circuler et que vous puissiez poser des questions. Je ne vois pas encore de doigt qui se lève, mais donc il va s'enlever lever rapidement. Sinon, je vais commencer moi en vous demandant comment vous avez établi ce questionnaire, c'est-à-dire comment vous avez établi les items qui faisaient que ça rentrait que ça pouvait déterminer l'impact social.
Vous parlez du questionnaire usager ?
Oui, du questionnaire usager.
Alors, c'est ma voisine qui va vous répondre.
Pour le questionnaire, on est parti en fait du livre sur les questionnaires établis par les sociologues. Notamment, je me souviens d'avoir épluché de manière très précise celui de François de Saint-Guy sur les questionnaires, et on a pris en fait les thématiques sur lesquelles on espérait, ou en tout cas on a réfléchi avec l'équipe projet, sur lesquelles on pouvait avoir une réponse plus ou moins précise, parce qu'il y a des éléments sociaux dont on ne pouvait pas avoir de résultats très précis, ou en tout cas qui étaient mesurables. Donc on a essayé de poser des questions où la réponse pour nous était exploitable. De même, du point de vue éducatif, parce que c'est la question à laquelle je pense, on avait cette intuition que la bibliothèque, elle avait peut-être un impact sur la réussite scolaire, mais isoler l'impact de la fréquentation de la bibliothèque sur la réussite scolaire s'avérait complètement impossible. Donc c'est une question qu'on a évacuée en tant que telle du questionnaire usager, et on s'est plutôt concentré sur le ressenti de l'usager, à savoir est-ce que pour vous, la fréquentation de la bibliothèque a eu un impact sur votre parcours scolaire. Et c'est sur ce type de formulation et de questions qu'on est resté sur toute la longueur du questionnaire qui faisait 22 questions de mémoire. Voilà.
Des questions ? Je ne vois pas qui est-ce qui a un micro dans les mains ou pas. Qu'est-ce qui fait que, comment on détermine, enfin la question, il y en a une qui me turlupine, c'est celle sur l'influence sur l'état d'esprit. Comment on détermine ce que c'est l'influence sur l'état d'esprit ?
On s'est basé sur un questionnaire de la Haute Autorité de Santé, en fait, qui appartient donc pour le coup à un domaine complètement différent, et un questionnaire qui a été validé, qui est sur la qualité de vie et l'état d'esprit, qui est un questionnaire, pour vous donner la référence exacte, qui s'appelle le SF36, et qu'on a réadapté à l'usage de la bibliothèque. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre « est-ce que votre état de santé a évolué depuis que vous vous soignez ?», nous, on a repris exactement la même question avec les mêmes items de réponse en disant « est-ce que votre état d'esprit a évolué avec la fréquentation de la bibliothèque ?». Voilà. Et comme le questionnaire était normé, on avait le plus de chances d'avoir des réponses qui soient exploitables et cohérentes.
Des interventions ? Bon, ça reste dans les têtes. Et donc, du coup, je reviendrai bien, moi, sur les entretiens que vous avez eus avec les professionnels. Oui. Quelle était l'intention de ces entretiens ? Quel était l'objet ?
En fait, le but du jeu a été d'abord de défricher, via le questionnaire en ligne, où on abordait toutes les thématiques que l'étude devait aborder. Et ensuite de ça, avec les entretiens, on a approfondi les questions. Je pense par exemple aux fournisseurs valoisiens qu'on n'a pas abordé ici puisqu'il s'agit de l'impact économique. On a demandé aux bibliothèques si elles avaient des fournisseurs qui étaient du département et quelle était la proportion de ces fournisseurs départementaux. Et ensuite, quand on a rencontré en entretien qualitatif les bibliothèques, on leur a demandé plus précisément les chiffres de ce budget. Pour savoir exactement, voilà. Et on a fait à peu près la même chose sur toutes les thématiques. C'est-à-dire, par exemple, pour reprendre vos questions sur le lien social, on a demandé aux bibliothèques si elles avaient des partenariats avec les autres acteurs de la collectivité qui travaillaient sur le lien social. Et quand elles nous ont répondu oui, lors de l'entretien, on leur a demandé d'écrire plus précisément quel était ce partenariat. Voilà.
J'ai une question et j'ai un micro, si je peux la poser. Je connais un peu le département du Val-d'Oise et les bibliothèques qui ont été interrogées, et ça correspond à des villes et des territoires extrêmement divers. Et je voudrais savoir si cette diversité entre ce qui est très rural et très urbain, par exemple, se retrouve au niveau des réponses du questionnaire, ou bien est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, une certaine universalité des réponses par universalité du ressenti des publics par rapport à leur bibliothèque.
Alors, y a quand même une certaine universalité des réponses, parce qu'on a eu la chance d'avoir 818 questionnaires exploitables. D'accord. Donc, le nombre a fait que finalement, ça a lissé le contenu des réponses. Je pense que si effectivement on avait eu moins de réponses, peut-être qu'on aurait plus vu les différences entre les territoires, mais que le nombre de questionnaires a lissé en fait le contenu des réponses. Maintenant, plus d'un point de vue des questionnaires aux bibliothèques que des questionnaires aux usagers, là on a vu une différence, notamment sur la thématique économique qui n'est pas liée aujourd'hui, mais on a vu une vraie différence entre les bibliothèques rurales et les bibliothèques qui étaient dans des grosses agglomérations. Mais sur le questionnaire usagé, avec le nombre, ça a lissé le contenu des réponses.
D'autres questions ? Ben peut-être que la dernière sera sur qu'est-ce qu'elle va être la suite que vous allez donner.
Excusez-moi, juste pardon. Une question ici.
Vous n'avez pas vu qu'il y avait... Oui ?
Pour continuer dans les questions des usagers, la question c'est est-ce qu'il y a eu plus de réponses dans certaines bibliothèques que dans d'autres, par exemple ?
Oui, bien évidemment. On a notamment une grosse bibliothèque qui est la bibliothèque d'Hermont, qui a été un gros contributeur de réponses. Parce que la bibliothèque étant intercommunale, elle avait aussi vocation à drainer beaucoup plus de monde. Et donc, oui, on a des bibliothèques qui ont beaucoup plus répondu que d'autres. Par contre, dans l'étude que vous pourrez bientôt lire, puisqu'elle a été publiée, on a mis en annexe de l'étude, pour bien avoir une transparence sur les chiffres qu'on donne, le taux de réponse par rapport aux bibliothèques, pour que il y ait bien une transparence sur le fait de comment on a obtenu les chiffres et qu'on n'ait pas manipulé les chiffres pour leur faire dire ce qu'ils ne voulaient sans doute pas dire. Question là-haut.
Bonjour. C'est très intéressant ce travail. Je me posais la question de savoir comment vous avez distribué les questionnaires aux usagers.
Alors, on les a mis à disposition sous format papier dans les bibliothèques, et on a également proposé aux bibliothèques un lien vers un questionnaire en ligne. Donc, comme ça, les usagers avaient la possibilité soit de répondre via un questionnaire en ligne, soit de répondre via un questionnaire papier.
Merci.
Voilà.
Mais là, c'est sûr que nous, département du Val-d'Oise, on ne pouvait rien faire sans le travail local des bibliothécaires. C'est-à-dire, c'est les bibliothécaires de chacune des 13 bibliothèques qui ont fait le travail, qui ont fait la médiation pour que le questionnaire soit visible, soit pris ou pas. Voilà. Évidemment, c'est quelque chose qui doit s'accompagner localement d'un travail très en interaction avec les bibliothécaires locaux, qui comprennent bien la démarche, qui puissent se l'approprier et qui puissent faire médiation pour ce questionnaire.
Oui, c'est surtout ça en fait qui me questionne, parce que quand on essaie d'avoir des retours d'usagers, on a tendance à faire passer toujours par le professionnel le questionnaire, et du coup aussi on a tout un pan de public qui n'est pas forcément touché par ces démarches, en fait. Voilà, enfin, c'est juste une réflexion.
Et donc, la dernière question peut-être que je vais poser pour rester dans les temps, c'était effectivement la suite que vous allez donner à ce travail-là, mais surtout, vous avez dit un moment en présentant que vous serviez de cobaye pour une enquête nationale. Donc, est-ce que le cobaye...
Alors là,
va grossir.
Ce serait pas à nous de vous répondre, Val d'Oise, mais plutôt à l'ABF et au ministère de la Culture, de savoir exactement où en sont leurs projets d'études à l'échelle nationale. Nous, à l'échelle val d'oisienne, on va servir des résultats de cette étude comme vraiment un outil d'aide à la décision qu'on va essayer de diffuser le plus possible auprès des élus val d'oisiens pour leur dire, voilà, certes, les budgets publics sont aujourd'hui contraints et que vous posiez la question de la pertinence de continuer à subventionner votre bibliothèque, pourquoi pas. Nous, on vous dit simplement, voilà ce qu'apporte la bibliothèque. Maintenant, on vous laisse libre de prendre la décision, mais au moins vous la prendrez en ayant une connaissance des conséquences de cette décision.
Alors juste un petit mot là-dessus. Donc l'ABF est en train de travailler sur cette étude nationale, avec, en partenariat bien sûr avec la BPI et les ministères. Il y a un groupe de travail qui s'est formé et voilà, on est en train de remonter les manches, mais on vous donnera une suite quand il y en aura une.
Bon, merci à toutes les deux. Et on va enchaîner justement en parlant des élus et de quelle façon les bibliothèques peuvent être levier des politiques du territoire avec David Constance Martigny, qui est conseiller en charge notamment de la culture, de l'éducation, du développement économique et de l'innovation, ça fait beaucoup, à France Urbaine, qui est une association qui regroupe les élus des métropoles, des grandes communautés et des villes-centres ou périphériques, c'est-à-dire 30 millions d'habitants, si j'ai bien compris. Donc vous allez nous exposer la manière dont les maires des grandes villes utilisent ou peut-être intègrent les bibliothèques, la bibliothèque comme outil au service d'autres politiques publiques sur le territoire.
Bien, je vais donc essayer de vous dire comment la bibliothèque, au-delà de sa mission première autour de la lecture publique, peut être mobilisée, être mise à contribution au service d'autres politiques publiques. Je ne pense pas que je vais vous apprendre grand-chose. On a d'ailleurs entendu dans les deux interventions précédentes un grand nombre d'éléments que vous allez réentendre maintenant. Mais simplement, ce que je me propose de faire, c'est de vous donner le point de vue des élus. Pour cela, je vais vous dire d'où je parle dans un premier temps. Donc, je travaille pour France Urbaine. France Urbaine, c'est une association d'élus. En général, vous connaissez peut-être plus facilement l'AMF, l'Association des maires de France, mais il existe finalement un nombre certain d'autres associations d'élus, et France Urbaine en particulier, qui existe donc depuis un an, mais qui résulte de la fusion de deux associations beaucoup plus anciennes, en l'occurrence l'Association des communautés urbaines de France et l'Association des maires des grandes villes de France. La MGVF qui existait déjà depuis 40 ans avant la fusion au sein de France Urbaine. C'est une association qui représente les villes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles qui font plus de 100 000 habitants. C'est donc tout le gros bloc urbain qu'on va retrouver au sein de cette association qui est présidée par Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse. Et alors comment ça fonctionne? C'est les élus de France Urbaine, de droite comme de gauche, parce que c'est une association pluraliste, vont se rassembler de manière très très régulière pour évoquer leurs problématiques communes et chercher à dialoguer avec le gouvernement, avec le Parlement, avec les grandes entreprises pour faciliter la mise en œuvre des politiques publiques dont ils ont la charge. Ils vont appuyer leurs réflexions sur des commissions thématiques, dont je vous ai mis le titre de quelques-unes, donc développement durable, développement économique, éducation, et évidemment donc particulièrement la commission culture. Cette commission culture, dont j'ai notamment la charge, est présidée par deux élus, Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, et David Lisnard, le maire de Cannes. Et elle se rassemble peut-être tous les deux mois à peu près pour traiter de sujets qui sont extrêmement variés, puisque ça peut aller de la loi création et les décrets d'application qui vont suivre, enfin qui commencent à suivre là, la sécurisation des lieux culturels après le Bataclan, l'intercommunalisation de la compétence culture ou encore l'emploi culturel, par exemple. La présentation que je vais vous faire à présent s'appuie sur une enquête qu'on avait menée nous aussi durant l'automne 2016 auprès de nos adhérents. 11 villes nous ont fait retour, en l'occurrence Bordeaux, Cannes, Clermont-Ferrand, Dunkerque, Lille, Metz, Nantes, Orléans, Roubaix, Toulouse et Tours. Alors vous voyez que là, il y a une diversité dans ces villes-là qui est tout à fait intéressante pour nous dans la mesure où les villes répondantes vont des tailles un petit peu intermédiaires comme Orléans ou Tours à des villes périphériques comme Roubaix ou encore des villes-centres de grandes métropoles comme Nantes, comme Lille, comme Bordeaux, ce qui nous permet de tirer des conclusions qui sont vraisemblablement opérantes au niveau national. Le panel que je vous ai cité est assez représentatif de la diversité des adhérents de France Urbaine. Alors, la bibliothèque, ce qu'on apprend au sein de cette étude, c'est que c'est au premier chef un des outils au service des politiques culturelles mises en œuvre par les maires, au même titre que les conservatoires, que les salles de spectacle, que les opéras, que les écoles d'art. Les bibliothèques, dont je répète que la mission première reste évidemment la lecture publique, peuvent aussi se voir confier des missions qui vont dépasser cet objectif initial. Et elles vont ainsi être invitées à intervenir ou à s'investir au sein de politiques qui vont être extrêmement variées, qui peuvent aller de la politique de la ville au sens de la cohésion sociale, du soutien aux quartiers défavorisés, que la petite enfance, les personnes âgées, l'animation culturelle au sens très très large, le soutien aux librairies indépendantes et donc le développement économique, les nouveaux rythmes scolaires, etc. La liste est donc très longue, très non exhaustive, évidemment, elle ne s'arrête qu'avec l'imagination des bibliothécaires. Et donc c'est l'objet de mon intervention que de vous donner quelques exemples localisés de ces compétences un petit peu autres et, que l'objectif initial. La bibliothèque, c'est peut-être, avec l'école, un des premiers lieux de construction du commun. Il n'est donc pas étonnant que les décideurs politiques et décider de les déployer dans des quartiers qui accueillent des populations qui sont les plus éloignées tant de la langue que du livre, et qu'ils aient profité de cet outil pour le renforcer d'autres outils visant à faciliter un vivre ensemble, ou alors tenter de réduire des inégalités d'accès à la culture et au savoir de manière générale. C'est ainsi qu'à Bordeaux, par exemple, les bibliothèques ont été spécifiquement installées dans les quartiers prioritaires du territoire. Au Lac, à Bacalan, à Benauge, à Saint-Michel. Et dans ces quartiers, les bibliothèques vont mener de nombreuses actions à caractère social, quasi systématiquement, ça vous le savez parfaitement, en accord avec les acteurs du territoire, notamment les acteurs associatifs. C'est la même chose à Toulouse, où une bibliothèque est implantée au Mirail, une autre à Bagatelle, à Soutard, etc. Et là, des fonctions spécifiques, par exemple la mise à disposition de médiateurs sociaux et culturels. Donc ces fonctions spécifiques vont être mises en place afin d'avoir, plus qu'ailleurs sur le territoire, un travail de fond avec les structures et les associations des quartiers prioritaires. Il y a d'ailleurs des actions spécifiques en direction des collégiens qui sont situés en zone REP et REP+, beaucoup plus qu'ailleurs sur le territoire de la métropole de Toulouse. Au Mirail, c'est par exemple le seul équipement collectif qui est ouvert le dimanche aussi. À Roubaix, les bibliothèques sont attendues dans l'accompagnement social avec la présence d'un écrivain public. Elles vont être attendues sur la médiation vis-à-vis des jeunes parents ou des jeunes adultes de manière plus large, des seniors. À Lille, un bibliobus, alors des bibliobus on en trouve à peu près partout, mais il a pour mission d'aller desservir les zones d'habitation qui sont les plus éloignées des médiathèques. Et dans les médiathèques, on va retrouver évidemment des cours d'alphabétisation, de l'aide aux devoirs. C'est ce qu'on va retrouver aussi à Clermont-Ferrand, où là, il va y avoir en plus de cela des ateliers nutrition, des ateliers santé, par exemple. Et la ville de Clermont-Ferrand, ce sera vrai aussi d'ailleurs de beaucoup d'autres villes, va intégrer non seulement les services culturels de la mairie, mais aussi beaucoup d'autres services lorsqu'il y a une réflexion autour de la construction d'une nouvelle bibliothèque, par exemple. À Dunkerque, la ville cherche à encourager le lien social grâce au projet Volontaires pour Dunkerque, qui vise à encourager les habitants à s'investir dans la vie de leur cité. Les habitants, là, vont être invités à participer à deux actions spécifiques. D'abord, des temps de lecture pour les enfants dans les bibliothèques, ou alors la mise en place d'un service de portage à domicile qu'ils vont assurer eux-mêmes auprès des habitants de leur quartier, auprès de leur entourage, de leur famille. À Nantes, les quatre médiathèques ont été implantées à côté des lignes de tramway afin d'en faciliter l'accès aussi. À Cannes, la médiathèque Ranguin, dans le nord de la ville, va concentrer ses projets d'éducation artistique sur les établissements scolaires environnants et elle va accueillir des groupes de Pôle emploi, de la mission locale pour y assurer des formations. À Metz, dans le cadre de projets de rénovation urbaine d'un quartier spécifique, celui de Metz-Patrotte, La ville a investi dans un projet énorme qui s'appelle l'Agora et qui va regrouper dans un même bâtiment une médiathèque et un centre social. La bibliothèque ne sert pas seulement, toutefois, à donner plus à ceux qui ont moins, pour reprendre une formule célèbre. Elle peut aussi être mobilisée en faveur de politiques éducatives et sociales, comme la petite enfance, l'éducation, la jeunesse, etc. C'est ainsi qu'à Tours, la direction de la petite enfance s'est appuyée sur la bibliothèque pour rédiger un livret de lecture destiné aux tout-petits et qui va être distribué dans les PMI, dans les crèches. À Cannes, le réseau des médiathèques participe activement aux politiques d'éducation artistique et culturelle avec la mise à disposition, par exemple, d'une médiatrice qui est chargée de mettre en place, de proposer des parcours autour du livre et de la lecture dans les établissements scolaires, ça depuis déjà de nombreuses années, depuis 2010 en l'occurrence. Et cette médiatrice va travailler en collaboration avec les autres médiateurs de la ville qui, eux, sont plus spécialisés, par exemple, sur le spectacle vivant, sur le patrimoine ou la musique. À Metz, les bibliothèques vont être associées à des projets de démocratie participative, où elles vont venir en soutien à des comités de quartier pour installer, par exemple, des projets de boîtes à livres. Ou en participant, mais ça se serait dans toutes les villes, aux actions qui sont développées par le ministère de la Culture et de la Communication, avec la Nuit de la Lecture, le Printemps des Poètes, les Journées du Patrimoine. Enfin, vous connaissez ça par cœur, évidemment. À Roubaix, les bibliothèques assurent la promotion du label Ville d'Art et d'Histoire et elle va être attendue aussi sur l'animation commerciale du centre-ville en accueillant par exemple un coffee shop au sein même de la médiathèque. Les exécutifs locaux sont par ailleurs très conscients du danger que peut représenter la disparition progressive des commerces de proximité du centre-ville. Et c'est ainsi qu'ils vont mettre à disposition de certains commerces locaux particulièrement choisis toute une série d'outils qui vont leur permettre soit de survivre, soit de se développer. C'est particulièrement le cas pour les librairies indépendantes, évidemment. C'est aussi le cas, a fortiori, pour les cinémas indépendants qui vont bénéficier de subventions qui vont les aider à monter leurs fonds, par exemple, ou alors de conditions qui vont apparaître dans le PLU sur la location, l'achat des murs au sein de la ville. À Cannes, typiquement, la direction des médiathèques est en lien constant avec la direction du développement économique pour guetter toutes les opportunités qui se présenteraient afin de récupérer un local commercial et le dédier à une librairie indépendante. Mais les villes vont aussi venir en soutien à l'activité des libraires indépendants en les associant au marché d'acquisition, en dessous du seuil évidemment des marchés de 90 000 euros. C'est le cas à Orléans, où les cahiers des charges sont organisés autour de critères de qualité de conseil et de rapidité de livraison aussi. À Bordeaux, l'essentiel des lots de fourniture de livres pour les bibliothèques sont attribués à des libraires indépendants locaux, ce qui, pour une somme qui représente plus de 250 000 euros annuels, ce qui n'est pas rien. À Toulouse, l'appel d'offres aussi, celui qui va couvrir donc les achats de livres par les bibliothèques, a été découpé en petits lots, ce qui permet de retenir une librairie indépendante sur la quasi-totalité des lots. Par ailleurs, et sans que ce soit véritablement une aide, il existe des partenariats culturels entre les librairies et les bibliothèques, de manière à ce que les librairies puissent organiser à l'intérieur des auditoriums des médiathèques, par exemple, des rencontres d'auteurs, ce qui leur donne une capacité d'accueil évidemment bien supérieure à celle dont ils pourraient disposer dans leur librairie. La bibliothèque reste toutefois en premier lieu un équipement culturel, et donc il n'est pas surprenant qu'il soit utilisé en tant que tel pour y organiser toutes sortes d'événements liés à l'animation culturelle de la ville. À Orléans, on va y organiser des expositions, des conférences, des rencontres d'auteurs, les rencontres de la francophonie, par exemple. À Clermont-Ferrand, la politique d'action culturelle va reposer sur un programme d'accompagnement destiné notamment aux structures qui bénéficient d'un label national, ou alors qui ont été lauréates de projets, d'appels à projets de l'agglomération elle-même, ou alors les festivals nationaux ou internationaux, on pense évidemment au Festival du Cours. Et cette intervention va consister notamment en l'accueil d'avant-premières ou dans la présentation de saisons, la coproduction d'événements, la réalisation de livrets bibliographiques, par exemple. À Lille, la bibliothèque municipale de Lille a participé en 2014, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, à l'organisation d'expositions dans l'exposition Omer Boucherie au musée de l'Hospice Comtesse, donc dans les musées de la ville. Elle est régulièrement aussi sollicitée par la ville pour des animations à destination de la jeunesse, des salons, etc. Elle va, dans ces moments-là, installer des espaces avec des livres à disposition, avec du personnel d'animation. Et même dans ces murs, elle va mettre en résonance les événements qui sont organisés par la ville, ces collections en résonance avec les événements organisés par la ville. C'est la même chose à Dunkerque, où la bibliothèque va participer à tous les grands événements fédérateurs proposés par la ville, mais qui ne sont pas forcément culturels d'ailleurs. Dunkerque l'a fait Eric, qui est une période d'animation de Noël, le marché de Noël de l'art dans le quartier de Rosendal, le marché du végétal. La bibliothèque va participer à Dunkerque en survette, qui est un grand rendez-vous des associations sportives au mois de septembre. Et la ville, d'ailleurs, dispose d'une bibliothèque pop-up qu'elle peut installer à peu près partout où il y a un événement, de manière très très légère, de manière à proposer des sélections documentaires qui sont en lien avec l'événement qui se passe. À Nantes, la bibliothèque développe des partenariats nombreux avec d'autres acteurs culturels, là aussi avec des musées, ou avec la Maison Fumetti, par exemple, qui est dédiée à la bande dessinée, avec le lieu unique, avec le musée du château des Ducs de Bretagne, avec la Maison de la Poésie. Mais elle va s'investir aussi à l'occasion de manifestations de toute autre nature, comme le festival gay et lesbien, par exemple, ou le festival Climate Chance. Et il peut même y avoir une dimension transnationale dans l'action des bibliothèques, comme c'est le cas à Metz, où les bibliothèques vont participer à des actions culturelles franco-allemandes dans le cadre de cette initiative que vous voyez ici, qui s'appelle Metz et Wunderbar. Les bibliothèques vont être aussi appelées en soutien au rythme scolaire. Alors ça, ce n'est pas fait de la même manière dans toutes les villes qui ont répondu à notre enquête. Certaines ne les sollicitent pas du tout. D'autres, en revanche, comme à Toulouse, vont solliciter les bibliothèques pour qu'elles travaillent avec les centres de loisirs périscolaires, soit par l'accueil de groupes directement dans les locaux de la bibliothèque, soit en travaillant en amont avec des animateurs pour que ces derniers soient en capacité de proposer des actions autour du livre et de la lecture pendant le temps périscolaire. Et elles vont accompagner ça, évidemment, d'un prêt de documents. C'est la même chose à Lille, par exemple, où les bibliothèques vont disposer d'un service aux écoles, avec un portage de livres dans les BCD, avec des animations, des venues d'auteurs, des lectures. À Tours, les bibliothèques sont aussi partie prenante avec des accueils pluri-hebdomadaires autour de la littérature jeunesse ou alors autour de jeux de société. Ah non, c'est trop tôt. Avec des jeux de société inspirés aussi de la littérature jeunesse. Et elles vont intervenir hors les murs. Évidemment, sans grande surprise, c'est particulièrement l'été que ça va se passer. Elles vont déployer leur action pour tenter de suivre leur public dans les activités qui sont les leurs en été et dans les lieux qui accueillent ces activités. Ou alors elles vont tenter de le faire pour tenter de répondre à la question de savoir comment toucher les habitants non inscrits à la bibliothèque ou alors non usagers de leur service. À Orléans, par exemple, la ville installe une bibliothèque éphémère en bord de Loire. Elle organise des lectures sur Gabart, sur la Loire, elle va lancer des concerts déambulatoires, elle va découper des Camille Bichaille dans les jardins pour le jeune public. Camille, vous voyez, merci beaucoup. Je ne savais pas ce que c'était avant l'enquête, donc il ne faut pas parler devant des bibliothécaires comme ça, c'est pas une bonne idée. Hein, à Bordeaux, la bibliothèque va proposer des bibliothèques éphémères d'été, évidemment, et là, elle va les intituler Bibliosport ou Biblioplage. D'ailleurs, Biblioplage, en 2016, qui était sur 2 mois, donc juillet-août, a attiré dans le quartier du Lac plus de 7000 personnes, ce qui n'est pas rien. À Toulouse, la bibliothèque va organiser des salons de lecture sur le site des scènes, par exemple pendant le festival Rio Loco, ou alors pendant des siestes électroniques. Elle va faire des interventions ponctuelles dans des piscines ou dans les parcs. Elle va aussi faire des interventions directes de bibliothécaires dans certaines structures, comme les crèches, les PMI, mais aussi les prisons ou les maisons de retraite. La même chose à Lille, où la bibliothèque municipale de Lille va intervenir auprès des publics empêchés ou éloignés, au CHU, en prison, de la même manière. À Nantes, des actions hors les murs sont organisées tout au long de l'année, dans les halls d'immeubles, et avec des opérations aussi de livres voyageurs. La bibliothèque va aussi répondre à plusieurs parcours qui sont organisés par l'Office du tourisme sur « Laissez-vous compter Nantes ». Et l'été, même, sa terrasse de lecture est une des étapes du parcours du voyage à Nantes, qui est tout à fait intéressant dans la mesure où ça quitte Nantes, hein, ça va de Nantes jusqu'à Saint-Nazaire. À Cannes, il y a évidemment ce qu'on retrouve ici, les pages à la plage, avec l'organisation de soirées lecture et contes sur la plage. Et à Metz, on va avoir des diffusions de playlists musicales lors des fêtes de quartier ou au sein de centres socioculturels. Bon, bref, je conclus en disant qu'on voit bien là qu'il y a des activités multiples qui se déroulent partout dans les bibliothèques, qui vont permettre aux élus d'utiliser pleinement, d'optimiser un équipement qui, parce qu'il s'insère dans un maillage très serré partout en France, va assurer la possibilité d'étendre l'action publique au plus près des besoins des populations. Et ceci n'est possible que grâce à l'imagination absolument débridée des équipes de bibliothécaires, dont le métier n'est plus seulement la conservation. Le bibliothécaire est membre de l'équipe municipale et ses missions entrent en résonance avec les multiples missions du service public local. C'est donc un outil dont l'importance est directement corrélée à l'ardente obligation de faire société qui incombe aux élus. Et je conclue en vous posant une question. Vous avez vu peut-être que sur chacune des diapositives, il y avait une photo de bibliothèque de grande ville. Est-ce que quelqu'un parmi vous les a toutes reconnues ? France Urbaine ne vous félicite pas.
Mais nous, on vous félicite pour votre intervention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? J'imagine que oui. Je ne vois pas bien si le micro circule, si les mains se lèvent. Oui.
Bonjour, donc Annie Dourlan de la BPI. Donc, c'est tout à fait intéressant que vous nous fassiez part de cette étude qui a été donc cette enquête qui a été faite à la demande d'élus. Et c'est ça qui nous intéresse particulièrement. Parce qu'évidemment, nous, en tant que bibliothécaires, on a un petit peu conscience que les bibliothèques peuvent faire tout ça. Mais donc, j'ai deux questions. Est-ce que cette enquête est disponible quelque part, les résultats de cette enquête ? Est-ce qu'on peut les consulter quelque part ? Oui, sur le site de France Urbaine ?
Pas encore, mais ça va venir.
D'accord. Et puis, deuxième question, est-ce que cette enquête a été présentée donc aux élus de l'association ? Comment l'avez-vous utilisée dans l'association et quelle réception elle a eue pour des élus ?
À ce stade, elle n'a pas été présentée à la commission culture. Elle devrait l'être la semaine prochaine, puisque nous avons notre prochaine commission culture. Mais ce sont des remontées qui nous sont venues directement des villes et qui vont participer à la construction d'argumentaires sur lesquels nous allons nous appuyer pour préparer nos relations avec le prochain gouvernement. Puisque nous préparons en ce moment un manifeste de France Urbaine dans lequel nous essayons de réfléchir la manière dont les grandes villes peuvent s'impliquer plus dans la vie de notre société.
Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, nous intéresse beaucoup, puisque l'étude, l'enquête nationale dont vous avez entendu parler tout à l'heure, là, qui est pilotée par l'ABF et à laquelle la BPI s'associe, elle a pour but aussi de fournir des argumentaires, c'est-à-dire de sortir des indicateurs qui permettent, au-delà de tout ce catalogue, de tout ce que font les bibliothèques, de montrer l'impact que ça a sur la société. Oui, tout à fait. Donc voilà, merci beaucoup pour cette intervention et j'espère qu'on pourra développer des partenariats avec France Urbaine, y compris parce que quand nous organisons des journées d'études, on fait très facilement le plein, on peut le voir aujourd'hui, oui. Mais on fait le plein de bibliothécaires. Et donc un de nos souhaits vraiment importants, et je crois que là l'ABF le partage complètement, serait d'organiser ce type de journée dans des échanges entre bibliothécaires et élus.
Ce serait tout à fait intéressant, je vous rejoins absolument. On pourra en reparler.
Est-ce que vous savez qui a répondu ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les élus ? Est-ce qu'ils ont réuni autour d'eux pour répondre ?
L'enquête est envoyée au premier chef, au maire de la ville, qui va très directement la transmettre à son adjoint à la culture, qui lui-même va la faire descendre au fur et à mesure. Mais la première entrée, c'est le maire. Donc, il y a cette idée, et de toute manière, la remontée se fait systématiquement après validation par l'ensemble de ses échelons aussi. Ça veut dire que le maire l'a vu. Ceux qui ont répondu véritablement, ce sont soit les directeurs des affaires culturelles, soit les responsables des bibliothèques ou des médiathèques lorsqu'ils existent dans ces villes-là, soit peut-être même le patron de la bibliothèque principale de la ville.
Des interventions ? Bon, on va digérer tout ça, alors, toutes ces données, parce qu'en fait, effectivement, il se passe énormément de choses dans les villes. Moi, la question que j'aurais posée aussi, mais je ne sais pas très bien comment la poser, c'est comment ces élus, parce que là, avec tout l'exposé de toutes les initiatives qui sont prises au niveau d'une ville, comment est évaluée la place des différents services d'une ville dans ces prises de décision de ces actions des médiathèques ? Est-ce que ça faisait partie de l'enquête.
Non, ça ne s'était pas intégré dans l'enquête. On a un défaut principal en France de manière générale, de la même manière dans les villes que dans nos ministères ou ailleurs, c'est qu'on travaille en silo. Et ça va être vrai dans les villes, c'est-à-dire que il est rare finalement que les affaires culturelles aillent parler avec le développement économique ou avec le développement durable. Ça existe malgré tout, évidemment qu'il y a des passerelles, d'ailleurs j'évoquais Cannes dans mon intervention, mais c'est assez compliqué hein, de donner de la transversalité à l'action publique. C'est bien d'ailleurs un des grands enjeux sur lesquels on risque de vouloir travailler nous l'année prochaine.
Ce qui veut dire que toutes les réponses qui ont été apportées sont celles qui ont été fournies par le service culturel.
Absolument.
Et les directions des médiathèques.
Là, pour le coup, je ne pense pas que ça a été validé par d'autres services.
Donc, ce qui serait peut-être l'étape suivante.
Absolument, je suis complètement d'accord.
Ok, merci beaucoup.